Bonjour à chacun. C'est toujours un privilège de pouvoir partager la parole dans des circonstances de présentation d'enfants. Un jour, il y avait un pasteur qui disait ceci, il disait, vous savez, Dieu promène son regard dans le monde entier, puis à chaque fois qu'il voit un problème, vous savez ce qu'il fait ? Il fait qu'il y a un enfant qui naisse. Il fait qu'il y a un enfant qui naisse parce que une vie nouvelle dans la perspective divine, c'est jamais un problème en plus, c'est toujours une solution. parce que Dieu est unique et Dieu est bon, et Dieu aussi, au travers de sa création, de son désir, de bénir l'humanité avec son Esprit Saint, qui est unique aussi, va faire quelque chose d'unique dans la vie de chacun de nos enfants. Et je crois que c'est son véritable projet. Et c'est vrai que lorsqu'on voit tous ces bébés, et ces enfants qui arrivent dans le monde, on peut se réjouir, on peut s'attendrir, mais on sait aussi que, voilà, ça sera pas facile tous les jours. Bienvenue sur Terre, mais bienvenue aussi dans les galères, bienvenue aussi dans les difficultés. Et alors c'est sûr, on est content, on s'attendrit, mais aussi comme nos parents l'ont vécu pour nous, ou nos grands-parents pour nous, ou pour nos, voilà, génération après génération, nous portons aussi des inquiétudes qui sont liées à notre temps, à nos inquiétudes. Alors aujourd'hui, on a des stress, des inquiétudes, des incertitudes. Et Dieu nous invite justement à échanger notre inquiétude par cette confiance en un Dieu d'amour qui les a créés. Et le titre de mon partage, je voulais l'appeler « Incarner la bienveillance de Dieu ». Pourquoi ? Parce qu'il y a une chose qui m'a tellement surprise lors des funérailles de notre ami Freddy. Il y a David, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient présents, qui a relaté quelque chose qui m'a, moi, vraiment bouleversé. Quelque chose qui est passé comme ça, comme entre deux lignes, un petit témoignage que David nous rappelait lorsqu'il est parti visiter Freddy à l'EMS et que s'il s'est inquiété de savoir si les gens étaient gentils à l'EMS. Et puis Freddy le regarde et lui dit « Il faut les faire gentils ». Alors, loin de moi, la polémique, il n'y a pas de problème, hein, mais simplement pour moi, c'est quelque chose de tellement fort, de tellement profond, de dire « il faut les faire gentils ». Qu'est-ce que Freddy voulait dire par rapport à ça ? Faut les faire gentils. Et moi, j'y vois une attitude d'emblée bienveillante, avec ce regard qui ne soupçonne pas le mal, mais qui embrasse ces personnes qui sont autour de lui en attendant le meilleur d'elle-même, tout simplement, en visant le meilleur d'elle-même. La bienveillance, je crois que c'est ça, c'est d'accueillir finalement les personnes qui nous entourent avec une prédisposition au bien, parce que c'est ça la bienveillance, d'être prédisposé au bien. Et alors, c'est vrai que la réalité de la vie, comme je le disais tout à l'heure, fait qu'on est parfois bouleversé par tout un tas de circonstances, d'inquiétudes. Et parfois, on a une image de Dieu qui nous est communiquée, hein, celle d'une espèce de père fouettard qui attend les erreurs pour bien corriger. Et ce n'est pas du tout ce que la Bible nous en dit. Un jour, et ça nous donne des chances, le disciple Philippe, qui marchait avec Jésus depuis 3 ans, ne comprenez pas bien, vous savez, ça nous donne des chances à nous qui essayons de suivre le Seigneur et qui ne comprenons pas toujours exactement ce qui se passe. C'est que Philippe, après avoir marché jour après jour, trois années avec Jésus, se retourne un jour vers Jésus et puis lui dit « Écoute, Seigneur, tu nous montres le Père et puis comme ça, c'est bon. Et puis ça suffit. Comme ça, on aura tout compris. » C'est dans Jean 14. Philippe, il avait ce don, c'était le déchargeur de batterie. Vous savez, c'est des personnes, ils touchent le truc. Les disciples voulaient repartir en Galilée, et puis Philippe dit, mais en Galilée, ils veulent tous nous tuer. Et puis, bon, il dit, bon, ok, allons tous mourir avec lui. Et puis, il était toujours à voir le pire, dans toutes les situations qui arrivaient, il y avait aussi le disciple qui était comme ça, qui n'avait pas forcément une prédisposition à voir les belles choses qui pouvaient venir, mais qui voyait plutôt les galères qui allaient arriver. Et puis quand il dit, écoute, Seigneur, il faut nous montrer le Père, et puis comme ça, c'est bon, on aura compris. Et puis Jésus se retourne en disant, mais ça fait 3 ans que tu es avec moi, et tu n'as pas encore compris. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et parfois, on s'interroge sur la nature même de Dieu, mais lisons les évangiles, regardons qui était ce Jésus là, qui faisait du bien, qui était vraiment cet homme qui accueillait sans condition. Cet accueil sans condition, sans préambule, sans préalable, sans prérequis. Et je dirais que c'est justement ça qui l'a crucifié. Parce que les hommes qui l'ont crucifié, c'était pas des analphabètes qui connaissaient rien de la parole, c'était des gens spécialistes de la loi, c'était des pharisiens, c'était des gens qui connaissaient la parole et qui se sont trompés quelque part en chemin parce qu'ils ont fait de la parole quelque chose d'identitaire, d'enfermant, alors que la parole et le conseil de la parole de Dieu, pour Jésus, c'est plus un terreau, c'est plus un humus sur lequel les semences de Dieu peuvent produire du fruit. Et ce qui fait que lui les a toujours bouleversés dans sa relation avec Dieu et sa relation avec la parole, parce que eux cherchaient tout simplement à se protéger de la crainte. Les pharisiens, c'était ça, on va quand même rajouter des lois à la loi, parce que comme ça, si même Dieu veut nous accuser, il ne pourra pas. Parce qu'on va mettre des lois partout, dans tous les domaines de la vie, et comme ça, on se rassure. Parce qu'il y a cette crainte-là, c'est toujours cette peur. Et finalement, Jésus va avoir une attitude totalement différente, puisqu'il ne va pas les amener à essayer de réfléchir à essayer de rajouter des lois aux lois, mais il va être tout simplement tendu vers la vie et de briser la crainte en disant « Mais voilà, je donne ma vie, j'accepte de mourir à ta place, donne-toi à moi, et tes craintes, laisse-les entre mes mains, et puis je vais m'occuper de toi, je vais te garder. » Lorsque Jésus vient sur terre, vous connaissez que Philippe dit effectivement « Montre-moi le Père », mais il y a aussi cette image de Jésus qui est justement un reflet unique du Père, celui qui est l'image de celui que nul ne voit, et aussi au travers de l'Église et de l'accueil de ses enfants, dans ce qu'on fait aujourd'hui, c'est aussi l'idée de pouvoir incarner la bienveillance de Dieu au quotidien vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de ses générations. Tout à l'heure, une des mamans disait, c'est vrai qu'on peut s'inquiéter de l'avenir, et puis elle disait, voilà, je remercie mes parents pour ce qu'ils ont porté, pour ce qu'ils m'ont porté, ils m'ont protégé pendant toute ma vie, et j'attends, les deux mamans ont dit ça d'ailleurs, je crois, et j'attends la même chose, je veux faire la même chose, et j'appelle aussi la communauté à faire la même chose, à appeler le bien, à appeler la bienveillance. Et c'est là vraiment la fonction du corps de Christ. La fonction du corps de Christ d'incarner la bienveillance du Père, d'incarner cette bienveillance qui a été manifestée en Jésus, qui a reflété le Père, et bien que nous, en tant que membres du corps, nous puissions aussi accueillir cette bienveillance. Et regarder ces générations qui viennent, regarder le monde qui nous entoure avec cette prédisposition au bien. Ce même regard d'amour que Jésus a porté sur chacun de nous. Quand on s'est approché de lui, il n'a pas regardé la chose qui nous séparait de sa sainteté, mais il est venu nous accueillir, tel qu'on était. Et en tant que corps de Christ, si nous voulons embrasser le monde comme Dieu l'embrasse et comme Dieu l'aime, il faut nécessairement le voir comme Dieu le voit. Et le voir non pas comme un problème, mais le voir comme une solution. Nous sommes en l'an de grâce 2017. C'est toujours le temps de la grâce. Et dans cette vision parfois restreinte d'un père fouettard, d'un dieu père fouettard, parfois nous pourrions avoir la tentation de dire « Oui, mais c'est pas comme avant c'était mieux. » Non, 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 non. Non. Il y a réellement un projet de bienveillance, et dans ce projet de bienveillance, Dieu est venu, c'est ce qu'il va dire à ses disciples à un moment, hein, quand ils étaient sur le chemin justement de la Galilée, et qu'ils cherchaient l'hospitalité dans un village de Samarie, et puis un village leur a refusé l'hospitalité alors que la nuit tombait, et puis les disciples se retournent vers Jésus en disant « Est-ce que tu veux que nous ordonnions au feu du ciel de tomber pour consumer ces misérables ?» Vous voyez, Et puis Jésus se retourne vers eux en leur disant « Mais quel esprit vous anime ? C'est pas ça du tout. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger. Il est venu pour sauver. C'est réellement le temps de la grâce. C'est encore le temps de la grâce, le temps où on va continuer de regarder avec cette prédisposition au bien les gens qui nous entourent et les générations qui viennent. Et c'est vrai qu'on a plein de choses qu'on ne comprend pas et qu'on ne comprendra probablement pas, parce que les défis des générations qui viennent ne sont pas les mêmes que les nôtres. Et comme les défis que nous rencontrons, ou bien que nos parents ou nos grands-parents rencontrés ne sont pas les mêmes que ceux de nos enfants, ni de nos petits-enfants. Et bien malin qui peut dire, j'ai tout compris et maintenant, ça va marcher. Vous allez suivre cette recette et puis vos vies vont réussir. C'est faux. Mais par contre, de créer ce terreau, de créer cet humus, de créer cette terre, cette terre de bienveillance, avec bien sûr les principes de Dieu qui sont là, les principes, il y a une écologie de la vie, il n'y a pas qu'une écologie du monde qui nous entoure et de la nature, mais il y a une hygiène de vie, une écologie de vie dans laquelle nous sommes appelés en tant qu'êtres humains à prospérer, et il y a un certain nombre de lois, il n'y a pas que des lois physiques, il y a des lois aussi sociales, des lois de vivre ensemble qui sont essentielles pour que cette bienveillance, cette prédisposition au bien puisse réellement se transformer en bien. Non pas un désir du bien, mais en bien réel, en bonté, en manifestation d'amour. Et moi, je trouve ça merveilleux dans l'image même du couple, du papa et de la maman qui s'unissent. Papa et maman qui sont chacun fait à l'image de Dieu, chacun créé à son image, mais différent et complémentaire. Le côté masculin qui est prêt, ma famille, tu la touches pas, hein. Qui est prêt à montrer les muscles s'il faut. Et puis en même temps, le côté maternel qui protège, qui nourrit, qui console, et qui sont présents dans le caractère de Dieu, et Dieu désire, Dieu s'incarne au travers du papa et de la maman, en reflétant son caractère au travers de la masculinité, de la féminité, et puis dans cette complémentarité de l'amour, Dieu fait que la vie vienne. Et non seulement que la vie vienne, mais que la vie grandisse, et soit entourée de ce climat qui finalement est un reflet du Créateur, des caractères du Créateur. Et cette bienveillance, là, va se décliner, s'incarner au travers d'un papa, d'une maman, pour pouvoir accueillir la vie, la faire grandir dans un climat d'amour et de bienveillance, parce qu'on a besoin de ça, parce qu'on a tous besoin de ça. Lorsque nous regardons justement l'œuvre que Jésus a faite à la croix, il est justement dans ce désir de briser la crainte et la peur qui peut nous empêcher d'accueillir cette bienveillance. Hier, je parlais avec un enseignant d'école publique. Et puis je lui disais, je faisais un peu la répétition de mon message en fait. Je l'ai testé sur lui. Et Et puis, je lui dis, voilà, cette inclinaison au bien. Et puis, il me dit, waouh, ouais, t'as raison. Et puis, il dit, mais ça me pose quand même un sérieux problème. Parce que moi, quand j'ai fini ma journée, cette prédisposition au bien, avec mes élèves, quand je les ai supportés pendant un certain nombre d'heures, j'ai un peu de mal. Et c'est vrai, cette volonté, nous pouvons avoir cette volonté de bénir et de garder en bien, mais maintenant il y a une réalité mordante qui est là autour de nous et qui fait que cette prédisposition au bien, elle va avoir du mal à se décliner en actes bons, en prédisposition au bien par rapport à la dureté de la vie et par rapport à la difficulté de la vie. Et justement, c'est là que c'est tellement important de pouvoir vivre dans cette communion avec Dieu et de constamment faire cet échange par rapport à ces stress-là, par rapport à toute cette souffrance, par rapport à toute cette difficulté à laquelle on est obligé de faire face et qui nous démolit. Et je lui disais justement, mais c'est vraiment l'intention de Dieu lorsqu'il dit à Job, mais prends garde de pécher car la souffrance t'y dispose. C'est-à-dire que c'est vrai, quand on souffre, on a ce choix de trouver un exutoire à cette souffrance, quel qu'il soit, pour essayer d'échapper à ces émotions, d'échapper à cette souffrance, d'échapper à ces difficultés, à cette lourdeur. Et là, justement, Dieu nous dit, non, cette souffrance, moi je te propose, non pas de la cacher, non pas de la camoufler derrière un exutoire, mais de la présenter à moi, de la déposer au pied de la croix, au pied de là où Christ, le Christ est mort, justement, pour nos péchés, pour ses souffrances. Et je crois qu'encore aujourd'hui, par rapport à nos enfants, par rapport à notre environnement, par rapport à ce monde, l'appel de Dieu est toujours le même. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, de pouvoir avec confiance continuer de déposer ses souffrances, de déposer ses fardeaux, de pas déposer toutes ces choses qui nous alourdissent, qui nous exaspèrent, qui nous énervent. Et de dire, Seigneur, par rapport à cette souffrance que je vis, par rapport à cette douleur que je vis dans cette situation, avec mes collègues, avec mes enfants, avec dans ma famille, quelle que soit la situation, Seigneur, quel est ton regard? Parce que ma souffrance à moi, elle ne produira que de l'amertume. Alors, Seigneur, s'il y a une souffrance à vivre, Seigneur, que ce soit la tienne, mais pas la mienne. Parce que la tienne, elle produira en moi une prière, une espérance, une proclamation, quelque chose qui va construire, qui va aller dans le sens du règne de ce bon Dieu. Mais ma souffrance à moi, souvent, elle va me conduire plutôt à l'amertume, à la colère, et puis finalement à la rébellion. Alors, plaise à Dieu que puissions. Alors voilà, facile à dire, facile à dire, mais plaise à Dieu que réellement nous puissions toujours nous efforcer de retrouver le chemin de la croix pour déposer ces choses. Parce que si nous ne déposons pas ces choses, c'est vrai que cette inclinaison à la bienveillance, cette prédisposition au bien, ça va partir. Alors jamais ne vous privez pas de la grâce, disait la parole, ne vous privez, qu'aucun ne se prive de la grâce de Dieu, de cette grâce. Venez, déposez, déchargez-vous, mais accueillez ce regard de grâce. Et je crois que justement, c'est bien possible que ce soit le secret de notre Freddy, de notre cher Freddy, de justement d'avoir ce regard de grâce, qui ne regarde pas à ce qui sépare de Dieu, mais qui dépasse là dans la grâce et qui accueille. Et je crois que c'est ça le secret. Continuellement, continuer, toujours déposer nos péchés, nos fardeaux, nos soucis. Alors, que Dieu nous aide et que Dieu puisse, vis-à-vis de ses enfants qui nous entourent, du monde qui nous entoure, à être porteur de cette bienveillance. Amen. On va prier. Seigneur, on veut te remercier pour ce regard de bienveillance que tu as eu vers nous, premier jour où nous avons commencé à mettre nos pas dans les tiens. Tu n'as pas regardé à ce qui nous séparait de ta sainteté, tu n'as pas regardé à ce qui nous séparait de ton projet de sainteté, d'amour, de bénédiction que tu avais pour nous, mais tu nous as accueillis tels que nous étions. Et Seigneur, je te loue pour cet accueil. Et je sais, Seigneur, que tu veux que nous portions cet accueil, ce regard, nous aussi. Nous portions ce regard sur ce monde qui nous entoure, sur ces générations qui viennent. Que nous soyons réellement corps de Christ, partie visible de la tête du corps qui reflète le Dieu de bonté éternelle. Seigneur, merci de tu connais en chacun d'entre nous les zones de difficulté, les zones de souffrance, les zones de colère. Seigneur, merci pour la croix. Aide-nous à accueillir le sacrifice de Jésus à la croix, qui a accepté de prendre tout ça sur lui, pour que nous puissions à nouveau incarner son regard, le regard du Père, sur le monde qui nous entoure. Seigneur, le monde a besoin de cela. Le monde entier a besoin de cela. Alors fais grâce. Car nous voulons tous que ce monde soit transformé, mais Père, nous savons bien que ça doit commencer par nous. Alors merci, au nom de Jésus-Christ. Amen.